Oh ben vous voyez, c'est rond, ça se voit quand même. Donc c'est l'anneau circulaire qui est donc au centre d'un périphérique. Rome est une ville relativement étendue. C'est à l'échelle des capitales européennes, un peu plus de 10 millions d'habitants, mais avec une densité relativement faible, c'est-à-dire très, très, très forte au centre et relativement faible dans la périphérie, même à l'intérieur de l'anneau circulaire qui est donc l'équivalent du périphérique. Donc sur la petite carte d'agrandissement, vous voyez 4 des cas, dont 2, je vais vous les exposer parce qu'ils sont assez emblématiques aussi des choses et on retrouve beaucoup de choses que Sandrine a évoquées dans les différents cas énumérés et provenant donc de l'histoire, longue histoire des jardins, plutôt des jardins partagés. Donc il s'agit des jardins partagés. Donc je vais vous donner 2 exemples ici. Si tu peux passer la diapo. Voilà. Le premier, c'est un jardin Trefontane. Et si vous voyez, bon, tout se trouvait dans la périphérie sud. Sur l'image en bas à droite, ouais, vous voyez qu'on est dans une périphérie avec des grands ensembles, hein, plutôt années 70. Jusque-là, ces terrains-là étaient un petit peu comme d'autres capitales européennes, des espaces plutôt agricoles ou enfin très largement utilisés par les agriculteurs. Et vous voyez qu'au milieu de ces immeubles, il y a quand même encore pas mal d'espace. Donc ces photos datent des années 2013-14. Voilà. Donc le terrain de Trefontane était un terrain vague, donc dont les usagers, les habitants des bars que vous voyez là, les voisins, ont trouvé que l'État se désintéresse, enfin l'État, la ville en l'occurrence, se désintéressait de ces terrains et elle a décidé donc, après les années 2009-10, de proposer d'occuper ces espaces, d'abord de façon parfaitement illégale, en créant un grand jardin. Donc on voit là dans l'image la plus en bas. Alors ce que je voulais juste vous attirer votre attention, parce que ce sont des exemples qui finalement ne sont pas très différents de ce qu'on trouve un petit peu ailleurs aux États-Unis en Europe, sinon que là vous avez quand même des proportions qui ne sont pas tout à fait celles des capitales comme bien sûr des capitales ou enfin des grandes métropoles comme New York ou Paris. Vous avez donc un espace qui est conséquent et qui a été en partie parcellisé. Donc ça c'est un petit peu contraire de ce qu'on a pu voir dans les jardins partagés de pieds d'immeuble en Suisse ou dans les jardins partagés des délaissés urbains de New York. Ce qu'on voit dans les deux images supérieures à gauche, c'est qu'il y a une enclosure, enfin une légère clôture. C'est une légère clôture, c'est que tout le monde peut l'enjamber, hein. Mais néanmoins, il y a la délimitation de parcelles individuelles. Mais par ailleurs, je n'ai pas le plan ici, je l'avais fait, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas collé. Par ailleurs, il y a aussi des espaces communs et notamment des espaces dédiés aux événements collectifs. Donc vous voyez dans l'image centrale, hein, ce sont des ateliers, ce sont bien sûr des fêtes musicales, artistiques, des cours, enfin il y a toute une série de choses. Et puis il y a aussi un jardin pédagogique dans cette expérience et dans les trois des autres qui sont sur la diapo précédente. Il y a aussi des jardins pédagogiques, des ruchers, et qui sont destinés aux enfants des centres socioculturels ou des écoles de proximité. Donc tous ces modèles-là, on a un petit peu, enfin tous ces éléments-là, on les a un petit peu évoqués à travers les exemples, soit à travers l'histoire, soit à travers, y compris d'ailleurs à Besançon, à travers l'espace. Donc par exemple à Besançon, on trouve la même chose à Strasbourg que je connais mieux. Pardon, avant de passer au suivant, un fil que je voudrais tirer tout de suite ici, c'est la dimension citoyenne démocratique affichée dans ces jardins. Alors, on ne le voit pas sur les images, par contre, quand on étudie un petit peu leur statut, on constate qu'il y a déjà une forme d'institutionnalisation avec une reconnaissance par la collectivité publique de l'occupation de l'espace, d'une part, et ensuite le dépôt de statut. Qui vont régir de façon un petit peu harmonisée l'ensemble des jardins. Alors ça, c'est une façon de faire qu'on retrouve dans beaucoup de collectivités, y compris à New York avec le Green Thumb, dont tu n'as pas parlé, mais oui, on ne peut pas parler de tout. Voilà, donc, donc c'est l'institutionnalisation. À Paris, il y a la même chose, et on a le même type de programme aussi, par exemple à Strasbourg, où vous avez une charte, un exemple de charte, un peu donc une certaine normalisation, je dirais, le gros mot, peut-être qu'il faudra le discuter, de ce type de jardin. Et dans les statuts, pour en revenir à ma dimension citoyenne, dans les statuts sont, et dans les règlements, sont affirmées clairement la dimension démocratique et citoyenne de ces jardins. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils ont une visée politique relativement affirmée, qui relaie de façon statutaire, enfin de façon institutionnelle, qui relaie la volonté d'occuper un espace délaissé, donc d'occupation concrète de l'espace, et qu'on considère négligé par les autorités publiques. Donc, vous voyez, une espèce de balance entre la reconnaissance publique et en même temps l'occupation d'abord illégale, puis légalisée. Donc, ça, c'est le premier exemple. Juste pour appuyer là-dessus, dans l'article 1, donc, par exemple, de ce jardin, l'article 1 du règlement qui régit cet espace et qui est donc inscrite aussi, qui permet en fait de visibilité, enfin d'asseoir de façon légale l'existence de ce jardin. L'article 1 décline de cette façon les finalités du projet. Le projet a pour finalité, je ne vous le dis pas en italien, je pourrais, hein, la participation démocratique, l'amélioration du niveau de vie des citadins et la promotion de modèles de durabilité environnementale. Vous avez un petit peu trois piliers du développement durable qui sont déclamés ici. Alors, pour l'attribution des parcelles, il y a cette volonté aussi d'ouverture sur le quartier. Donc, il ne faut pas habiter plus loin. En fait, il faut pouvoir venir à pied ou à vélo. Donc, il y a cette idée d'environnemental qui s'applique dans le fait qu'il y a une certaine surveillance des jardiniers qui vont venir dans ce jardin, enfin, surveillance de ceux qui peuvent jardiner. Et également, des priorités qui sont accordées en fonction des statuts sociaux, sociaux plutôt, donc avec des priorités pour les retraités, les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus aussi, de manière générale, qui peuvent témoigner, enfin qui peuvent prouver qu'ils sont des minima sociaux ou des choses de ce genre-là. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, si je peux me passer à diapo, vous voyez encore des choses qu'on peut voir à peu près partout. Donc, c'est Exnia, ce qui est intéressant pour Exnia, je ne sais pas comment ils le prononcent en Italie, c'est une usine. C'est une friche industrielle cette fois-ci. Donc, on n'est pas exactement sur le même modèle que le précédent. Sinon, c'est une friche, mais au départ, c'est pas la raison de la friche n'est pas la même. Donc, ce terrain-là est occupé là pour le coup de manière contestataire et politique, avec une forte dimension politique depuis les années 1995, donc avec l'occupation de l'espace, notamment avec l'idée de contrer le bétonnage et donc la spéculation immobilière qui s'empare des différentes friches urbaines qui sont relativement centrales encore dans l'agglomération. Alors, l'objectif, c'est d'occuper l'espace, de formaliser. Alors, au départ, c'est des occupations qui sont extrêmement temporaires. Ce sont des fêtes. Il y a aussi l'installation d'un centre social et la dimension très politique, je dirais, culmine avec l'accueil dans les années 2008 de migrants qui arrivent de Rosarno après des conflits et qui donc s'installent sur le terrain pas très durablement, mais enfin au moins quelques mois, et qui, eux, installent un jardin. Donc, c'est les premiers à installer un jardin sur cet espace, ce sont les migrants. Donc, de la dimension politique, on passe, et contestataire aussi, de l'usage des sols qui est fait par la municipalité, puisqu'on ne veut pas qu'il y ait de projet immobilier, de ce projet politique passe, mais plus de 10 ans après le début de la contestation et de l'occupation des lieux de façon un peu sporadique, passe à une occupation par un jardin, qui au début n'est pas pérenne. Et du point de vue de l'institutionnalisation, c'est là que c'est intéressant, et qui rejoint un peu le cas des pieds d'arbre, je vais juste développer tout de suite après, les militants, parce que ce sont surtout des militants, beaucoup moins des habitants de proximité qui sont dans cet espace, les militants refusent formellement de formaliser l'occupation de l'espace avec un règlement ou une convention publique. Donc ça ne se fait pas. Il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de reconnaissance publique et d'institutionnalisation. Mais le contrepoint de ce refus, c'est qu'après le départ progressif des migrants, le jardin n'a plus de jardinier. Et donc, il tombe en déshérence. C'est-à-dire que ce jardin qui a été aussi un moyen de subsistance des occupants temporaires, et là, de façon politique, finalement, est abandonné. Ou en tout cas, alors, il continue à être avivoté. Il y a une petite vieille dame du quartier qui vient arroser un petit carré. Voilà. Donc, il continue à avivoter, mais il n'y a plus de collectif autour de ce jardin. Par contre, il y en a toujours autour des activités sociales. Voilà, donc alors cet exemple-là de Exnia, il me semblait intéressant parce qu'il montre à contrario en fait que l'institutionnalisation en général, est, qui évidemment la plupart du temps est synonyme d'accord avec les autorités, ce qui suppose leur appui, est aussi d'une certaine manière l'une des conditions de la pérennisation de ces initiatives. Alors là, on avait deux exemples. Les deux exemples que je vous ai donnés sont des exemples en bon français bottom-up, puisque ce sont d'abord des militants ou des habitants qui demandent ou qui occupent illégalement, puis légalement les espaces. Et souvent, ces expériences se transforment. On le voit tout à fait dans le New York hein, depuis les années 70. Souvent, cette expérience est relayée par la collectivité qui finit par en faire un programme et par proposer aux habitants des espaces. Alors après, il y a des tensions, bien entendu, mais proposer des espaces qui peuvent leur être prêtés, alors avec différents types de statuts. Juste à cette question de la tension entre l'institutionnalisation, la contractualisation, etc., c'est ce qui se passe autour des pieds d'arbres. Alors, je n'avais pas pensé, mais je me suis quand même beaucoup promenée ces dernières années dans les villes américaines, puisqu'on a des projets autour de la gouvernance urbaine, et notamment alors à New York et à Baltimore, pour les citer. Et à New York, il y a un mouvement qui existe aussi, qu'on retrouve un peu partout, à Strasbourg aussi, d'institutionnalisation de la gestion des pieds d'arbres, entre autres choses. Et donc, on adopte un pied d'arbre. Il y a un conventionnement d'utilisation du pied d'arbre qui est en bas de chez vous pour s'en occuper. Et qui... Oui, alors je vois Sandrine. Et qui me semble assez symptomatique de cette tension entre l'institution et le public, la participation et l'autorité. Alors, je vais y revenir juste après, mais Sandrine voudrait passer un mot, alors on va commencer à être un peu plus vivante.
Non, je voulais juste préciser ce qui est intéressant sur le cas des pieds d'arbre à New York, c'est qu'en fait, il y avait déjà des gens qui, de manière non institutionnelle, comme je vous ai montré un peu, plantaient des choses au pied des arbres. Parallèlement, la ville a eu un programme extrêmement ambitieux de plantation d'arbres, mais sans les moyens derrière financiers humains pour gérer ces arbres. Et en fait, elle encourage l'adoption des pieds d'arbres, parce qu'elle sait que les gens veulent planter des fleurs, mais dans le but que ces citoyens s'occupent des arbres, en fait.
D'accord, pas des pieds.
Non, mais ils s'occupent des pieds, mais du coup, en arrosant leurs fleurs, ils arrosent les arbres que la ville n'a pas les moyens d'arroser et d'entretenir.
Donc là, j'ajoute un petit point encore qui ne sera pas forcément repris par la suite, mais évidemment, il y a cette balance, cette tension entre l'occupation de l'espace et la prise en charge démocratique de l'espace, le droit à la ville, pour ne pas le nommer autrement. Évidemment, cette tension entre le droit à la ville d'un côté et de l'autre côté, l'institutionnalisation, on peut dire qu'il s'exprime aussi à travers la contestation. Enfin, excusez-moi, j'ai le début de la phrase et pas la fin. En fait, il y a plusieurs personnes qui, comme Alexnia, en fait, refusent qu'il y ait cette institutionnalisation, au motif notamment que c'est une façon pour le pouvoir public de se décharger de la gestion et de leurs compétences, de leur gestion et de leur responsabilité de gestion des espaces publics. Donc il y a toujours aussi cette idée que c'est bien la participation, mais est-ce que ce n'est pas simplement une démission des pouvoirs publics face à la gestion, à l'occupation et à la fabrique de la ville ? Je jette cette pierre dans la mare. Pour passer à la diapositive suivante, alors nous avons fait à travers ce petit tableau et puis tous les exemples d'ailleurs qui ont pu être évoqués ce matin pourraient essayer d'entrer dans ce tableau. Donc c'est une première ébauche parce que en vous écoutant aussi le matin et tout au long de cette journée, je me suis dit que on aurait pu présenter ça autrement. Ça fait rien. C'est une première ébauche autour de la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question de savoir si ces jardins étaient terreaux. Est-ce qu'on pouvait parler de terreau de la transition sans réfléchir à l'intentionnalité l'intentionnalité qui est mise dans la culture, enfin dans la mise en culture et dans ces initiatives. Alors, intentionnalité de qui ? Ben, des jardiniers déjà, et peut-être aussi d'une certaine manière des autres acteurs de la ville. Alors, on a repris ici dans ce tableau très rapidement des choses qui peuvent être complètement discutées, hein, ce n'est pas du tout figé. Des types de transitions, ça aussi a été évoqué par Sophie ce matin, me semble-t-il. Transition, quel type de transition, de quel type de transition on parle ? Et on a rangé, alors c'est un peu à la hache, hein, nos différentes époques, nos différentes expériences qui ont été évoquées dans cet exposé, on les a rangées donc par, vous voyez sur la colonne de gauche, les siècles, hein, 17, 19, 20e, 21e siècle, et les épisodes qu'on vous a évoqués, hein, les diggers, les jardins ouvriers, jardins dans les réserves, etc., par type de transition, et on a un peu vu que ce n'était pas toujours les mêmes qui étaient visés. Donc on a pensé à la transition politique, on a pensé à la transition alimentaire, écologique. On a mis morale, ce n'est pas très bien choisi, j'en suis désolée. On a pensé aux questions d'esthétique aussi, aux questions politiques et écologiques. Et bien, ça y est pas. Mais bien sûr, on peut le rajouter. Et on a mis dans une colonne un peu de façon, un peu tordue. Enfin, c'est un peu difficile à envisager. Il faut sans doute tout changer dans ce tableau. Mais néanmoins, les motivations et les valeurs qui recouvrent la question de l'intentionnalité que je viens d'évoquer. Donc, des valeurs d'usage versus les questions de propriété qu'on retrouve dans plusieurs expériences, les questions de santé avec les jardins hygiéniques, les questions d'assimilation, donc si Sandrine a un mot à rajouter là-dessus, notamment dans les jardins des réserves.
C'est plutôt sur ouais. Le 27e que
je... D'accord. Des valeurs et des motivations qui tournent autour du patriotisme. De manifeste destinée, c'est-à-dire l'idée que à travers les jardins, on montrait ce que vous avez évoqué, Sandrine, hein, on montrait la grandeur de la nation, enfin des États-Unis, c'est ça, et l'idée d'impérial, enfin pardon, j'allais dire impérialiste, mais un peu ça, et puis des problèmes autour de la des questions autour de la propriété, bien sûr toujours la valeur contestataire, et pour nous cette question-là est relativement transitoire dans la transition aboutit, la protestation c'est plutôt contre et pas vraiment pour, pas toujours en tout cas, et donc Sandrine, tu voulais aller plus bas, local versus global, question de la territorialisation.
Oui, je voulais surtout préciser du coup la dernière ligne sur les community gardens qui maintenant arrivent dans les réserves, alors que c'est quand même un phénomène très urbain. Et maintenant, on les retrouve donc je parle des réserves amérindiennes. On les trouve donc dans des territoires plutôt ruraux, donc c'est d'autres problématiques sur l'espace. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que moi là, j'y vois une possible transition vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, parce qu'en fait, une grande partie de la politique gouvernementale à l'égard des Indiens, ça a été de les forcer à la dépendance, de les infantiliser, ils ont été considérés comme pupilles de la nation pendant des décennies, donc illégalement irresponsables, un peu comme quelqu'un qui est considéré comme aliéné. Donc collectivement, ils étaient considérés comme irresponsables. Et ils ont vécu très longtemps et vivent toujours avec des coupons alimentaires qui leur donnent accès non seulement à de la nourriture pas de très bonne qualité, mais à un choix très limité. Et encore une fois, qui les déresponsabilise et les infantilise. Et donc là, ça peut être une possibilité, donc la décolonisation alimentaire, de reprendre la main là-dessus. Ce qui est intéressant, si on parle d'ambiguïté et de paradoxe, c'est que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais moi je pense à une réserve en particulier, Rosebud, où il y a deux cas comme ça de community gardens. Il y en a un qui a été lancé par les missionnaires jésuites et l'autre qui est piloté par un jeune blanc de New York. Donc on est quand même là encore très proche du 19e siècle et du paternalisme. Et donc à mon avis, la vraie transition elle pourra se faire, et comme à Détroit, qui est une ville à 95% afro-américaine, la plupart des programmes de jardinage sont pilotés par des jeunes blancs nouvellement arrivés. Et donc évidemment, là on trouve aux États-Unis cette question raciale dont on ne parle pas en France. Mais donc la vraie transition se fera quand il y aura une prise en main par les groupes eux-mêmes, quoi, voilà. Et donc une vraie décolonisation.
Comme je vois l'heure qui avance, je voulais juste, il y a encore une diapo, une seule. En termes d'intentionnalité, juste pour en tout cas lancer le débat, peut-être tu reprends ça, Florence. Hein. L'intentionnalité, c'est de qui ? Ben, les jardiniers, d'une part, avec nos fameuses occupations contestataires, etc. Mais cette intentionnalité, elle peut être a posteriori ou en tout cas ou objectivante, c'est-à-dire par d'autres groupes de la société que ceux qui sont les pieds dans la terre, et notamment qui se font en quelque sorte les interprètes, les énonciateurs de ces... Donc on est là... On est dans cette catégorie-là, hein. Qui se font les interprètes des intentions exprimées ou non, ou qu'on fait s'exprimer Donc ça interroge aussi les discours sur la question de la transition, qui en parle et pourquoi et comment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet d'opportunité, excusez-moi. Voilà, est-ce que ça rencontre un phénomène particulier, significatif ou non? Et en tout cas, nous, on a trouvé que dans certains cas, par exemple, les cas de, qu'on a appelés transitoires, non, comment, temporaires, des jardins de crise de la guerre et de la Grande Dépression, ça rentrait dans cette idée de passage qui débouche sur rien d'autre qu'un retour à une situation intérieure. Juste le deuxième mot qui nous paraissait intéressant d'étudier, enfin, ou en tout cas d'interroger sur ces questions de jardin et de transition, c'était les questions de trajectoire. Donc ici, je vous reproduis un schéma qui est d'un certain Lorbach, et qui est publié dans Future Earth. Vous savez, il y a un site assez intéressant à consulter qui interroge les notions de transition, mais aussi, alors là, il écrit transition, mais aussi de transformation, et qui montre un petit peu les idées de trajectoire. Alors, il nous semble que dans ces jardins, enfin, dans l'idée de transition, mais là, je ne parle pas en personne avertie, mais au regard de l'expérience des jardins, on imagine forcément ce vers quoi on s'achemine. Donc c'est une société durable, la plupart du temps c'est pas dit, mais voilà. Et du coup, on se posait la question dans cette question, dans ces trajectoires, et c'est assez bien montré sur ce schéma, la question de la généralisation de ces initiatives qui sont souvent relativement petites, quelquefois qui grandissent, mais pas toujours, qui se généralisent et qui vont vers une espèce de volonté d'universel ou de système sociaux, économiques, écologiques. Et on se posait la question de l'équilibre entre les initiatives, le terreau qui voudrait quelque chose d'innovant, et puis le fait que si on veut arriver vers un système, quelque chose de plus général, ben, il faut à un moment donné universaliser, généraliser. Et est-ce qu'on ne perd pas en innovation, est-ce qu'on ne perd pas en inventivité, etc. Voilà. Donc c'est simplement des petites questions. Et le dernier mot, le cosmos. Non, c'était la question d'universel. Oui, merci de votre attention.
Merci beaucoup.